Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de NineNarTree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Toute l'écho en BD sciences économiques et sociales en classe de seconde » est un ouvrage pédagogique illustré conçu pour accompagner le programme de SS au lycée. Claire Fuma, formatrice en droit, économie et analyse financière, y transpose des notions scolaires en langage visuel avec la participation de plusieurs dessinateurs. Le livre couvre les grands axes annoncés pour la seconde manière dont économistes, sociologues et politistes travaillent, création et mesure des richesses, formation des prix sur un marché, socialisation et organisation de la vie politique. Son genre est donc celui du manuel de vulgarisation en bande dessinée, davantage orienté vers la compréhension structurée que vers le simple divertissement. Les illustrations, situations décalées et schémas de synthèse servent à rendre le vocabulaire disciplinaire moins abstrait. Le projet répond à une difficulté fréquente en SSE, relier des définitions, des mécanismes et des exemples concrets sans perdre la rigueur des concepts. Il constitue ainsi un support de cours complémentaire, utile pour découvrir, revoir et mémoriser les notions fondamentales. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les démarches de économie, sociologie et sciences politiques. Le premier intérêt du volume réside dans sa présentation des trois regards qui composent le SES. Économie, sociologie et sciences politiques ne posent pas exactement les mêmes questions et ne mobilisent pas les mêmes outils, même quand elles observent une réalité proche. L'économie examine notamment les choix sous contrainte, les échanges et la production. La sociologie étudie les comportements en les reliant aux groupes, aux normes et aux positions sociales. La science politique analyse les institutions, le pouvoir, la participation et les comportements politiques. Cette distinction est décisive pour un élève de seconde, elle évite de réduire la discipline à une liste de définitions isolées. Le livre met aussi en avant la nécessité de construire une question, de choisir des données et de distinguer observation et interprétation. Les représentations graphiques peuvent faciliter la lecture de tableaux, de proportions ou de comparaisons, compétences indispensables dans un enseignement qui associe concepts et documents. La bande dessinée ne remplace donc pas la démarche de preuve, elle fournit une porte d'entrée concrète vers celle-ci. En rendant visibles les étapes du raisonnement, elle aide à comprendre que les sciences sociales cherchent à expliquer des régularités, tout en tenant compte de la complexité des situations humaines. Deuxièmement, création de richesses et limites de leurs mesures. Le traitement de la production permet d'aborder une question centrale, comment une société crée des richesses et comment elle les évalue. Le livre introduit les activités productives et la diversité des acteurs impliqués, notamment entreprises, administrations publiques et organisations sans but lucratif. Cette pluralité importe car la richesse ne se limite pas aux biens vendus sur un marché. Les services non marchands produits par les administrations participent eux aussi à la satisfaction de besoins collectifs. La mesure de la production, généralement associée au produit intérieur brut, donne un indicateur utile pour comparer des niveaux ou évolutions de activité économique. Mais cet indicateur ne doit pas être confondu avec une mesure complète du bien-être. Certaines activités utiles ne font pas objet de transactions monétaires, tandis que des coûts sociaux ou environnementaux peuvent ne pas apparaître directement dans le calcul. Présenter cette limite dès la seconde développe un usage plus prudent des chiffres économiques. Le format illustré peut rendre plus intelligible la chaîne qui relie production, valeur ajoutée et agrégat. Il favorise ainsi une compréhension mécaniste, un indicateur résume une réalité selon des conventions précises et son interprétation dépend de ce que son calcul inclut ou laisse de côté. Troisièmement, la formation des prix par la rencontre entre offre et demande. Le chapitre consacré au marché explique pourquoi un prix ne constitue pas seulement une étiquette fixée arbitrairement. Dans le modèle concurrentiel, il résulte de la confrontation entre une offre et une demande. Du côté des demandeurs, la quantité souhaitée varie notamment selon le prix, les préférences ou le revenu. Du côté des offreurs, elle dépend des coûts, des techniques disponibles et des perspectives de vente. Le point de rencontre entre les deux courbes permet de comprendre la notion de prix, d'équilibre et la quantité échangée. Cet outil donne une grille de lecture simple pour analyser les effets d'une variation de conditions, une hausse de la demande ou une baisse de offre. Modifie les équilibres possibles. Le livre a vraisemblablement pour fonction de rendre ce raisonnement graphique plus accessible grâce aux schémas et aux exemples. Il importe toutefois de saisir le statut du modèle. Il isole certains mécanismes afin de les rendre analysables. Il ne décrit pas toutes les situations réelles où interviennent régulations publiques, pouvoir de marché, informations inégales ou contraintes sociales. Cette articulation entre représentation simplifiée et réalité économique est particulièrement formatrice. Elle donne aux élèves les bases nécessaires pour lire un graphique de marché et pour ne pas employer les termes offre, demande et prix de manière imprécise. Quatrièmement, la socialisation comme apprentissage des normes et des rôles. La partie sociologique consacrée à la formation des acteurs sociaux abordent la socialisation, soit le processus par lequel les individus apprennent des manières de penser, d'agir et d'interagir. Famille, école, groupe de pairs, médias et activités de loisirs peuvent contribuer à cet apprentissage, avec une influence qui varie selon les contextes et les moments de la vie. Le point essentiel est que les comportements ne relèvent pas uniquement de préférences individuelles spontanées, ils sont aussi façonnés par des normes, des valeurs et des expériences socialement situées. Cette approche aide à comprendre la diversité des pratiques culturelles, scolaires ou relationnelles, sans attribuer trop rapidement les écarts à des qualités personnelles. Le livre peut trouver ici un avantage particulier dans la mise en scène des situations ordinaires, rendre visibles des règles souvent implicites, par exemple les attentes liées au rôle ou aux appartenances. Une telle visualisation ne doit cependant pas conduire à imaginer des individus passifs. La socialisation est plurielle et évolutive, car plusieurs instances peuvent transmettre des attentes différentes et parce que les personnes interprètent ce qu'elles reçoivent. En introduisant cette tension entre apprentissage social et marge d'action, l'ouvrage fournit une base claire pour analyser comment se construisent les identités et les comportements au sein de la vie collective. En dernier lieu, vie politique, institutions et formes de participation. Le traitement de la vie politique propose de dépasser une vision limitée de la politique comme seule activité des élus. Les institutions organisent l'exercice du pouvoir, définissent des règles collectives et encadrent la compétition pour accéder aux responsabilités publiques. Mais la vie politique implique également des citoyens, des partis, des associations, des médias et diverses formes de mobilisation. Le vote occupe une place importante, sans épuiser la participation, engagement associatif, manifestations, débats publics ou autres actions collectives, permettent aussi d'exprimer des préférences et des revendications. Pour des élèves de seconde, cette perspective est utile car elle relie des notions institutionnelles à des pratiques observables. Elle invite aussi à distinguer intérêt pour la politique, inscription dans des collectifs, comportement électoral et participation ponctuelle. Le recours à la bande dessinée peut clarifier les relations entre acteurs et rendre moins intimidant un vocabulaire souvent abstrait, tel que représentation, légitimité ou participation. Le bénéfice intellectuel réside dans la compréhension de la dimension organisée de la démocratie. Les opinions individuelles deviennent politiquement visibles au moyen de procédures, de médiation et de règles. Cette grille de lecture permet ensuite d'aborder avec davantage de précision les débats sur abstention, mobilisation citoyenne et rôle des institutions dans la structuration de la vie publique. En conclusion, toute l'écho en BD Sciences économiques et sociales en classe de seconde s'adresse d'abord aux élèves qui suivent les SS et recherchent un support de compréhension ou des révisions moins denses qu'un manuel classique. Il peut également servir aux parents qui souhaitent accompagner un travail scolaire sans disposer d'un bagage spécialisé, ainsi qu'aux lecteurs curieux de retrouver les bases de l'économie, de la sociologie et de la science politique. Son apport pratique tient à la combinaison de définitions, de mécanismes et de représentations visuelles. Un élève peut s'en servir pour préparer un chapitre, reprendre une notion mal comprise ou fixer les repères nécessaires avant de travailler des documents et exercices plus exigeants. Le livre ne dispense pas de lire le cours, de manipuler données et graphiques, ni de préparer les évaluations selon les attentes de l'enseignant. Sa fonction est complémentaire, il facilite la première appropriation et la mémorisation des concepts. Par rapport aux manuels de SES traditionnels, son trait distinctif est le choix assumé de la bande dessinée comme instrument de pédagogie. Les situations illustrées et le ton humoristique visent à réduire la distance créée par le jargon, tout en conservant une organisation liée au programme de seconde. Comparé à une vulgarisation économique générale, il se distingue aussi par la place accordée aux trois disciplines des SS. Cette articulation en fait un outil cohérent pour comprendre les raisonnements et les objets propres au cursus scolaire. Si vous souhaitez soutenir Claire Fumat, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.